nous avons le plaisir d'accueillir au téléphone Estelle Reva. Bonjour Estelle, merci de nous consacrer un moment. Un merci d'autant plus vif que tu es actuellement en réunion à Berne sur l'égalité salariale, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Il y a quand même quelques progrès à faire encore.
En effet. Je l'ai dit en intro, tu t'es d'abord fait connaître comme violoncelliste au terme d'une formation en Suisse, en France et en Allemagne. Et en fait, dire ça, c'est ne pas dire grand-chose parce que tu es en fait une soliste à la carrière internationale. Tu as joué sur plusieurs continents. Tes disques ont l'art de mettre les critiques, la presse spécialisée et le public d'accord. Tu interprètes et tu enseignes la musique. Et par-dessus le marché, tu assumes depuis quelque temps la fonction de conseillère nationale PS. De but en blanc, j'ai envie justement de m'adresser à la femme politique. Dans le reportage qu'on vient d'entendre, la rappeuse Nathalie Frelich évoquait le harcèlement en ligne et les haters qui se déchaînent. Est-ce que le fait que les plateformes de réseaux sociaux soient basées en Chine ou aux USA, ça rend impossible toute réponse légale ? Est-ce qu'on est à ce point-là démunis ?
Bon, je ne sais pas, c'est un sujet qui est très nouveau et puis qui est aussi lié à l'émergence de tous ces réseaux sociaux et puis le fait que la communication maintenant elle se fait aussi de façon anonyme. C'était assez marrant d'ailleurs parce que quand je me suis engagée, quand je n'étais pas encore du tout conseillère nationale, mais que je me suis engagée pendant le Covid, il y a un moment où il y a eu un référendum sur la loi Covid où je défendais en fait les aides économiques et où tout le courant anti-vax m'est tombé dessus avec des messages sur les réseaux sociaux qui étaient très très affolants, qui attaquaient mon intégrité physique, qui me menaçaient par exemple de viol, donc ça allait quand même assez loin. Et c'était effectivement quasi impossible de faire quelque chose en fait. Donc j'ai eu dans un premier temps cette aide d'aller me réfugier à Paris et puis ensuite de se dire que peut-être ça allait pas se passer dans la réalité, mais c'est effectivement déstabilisant.
Ouais, les haters sont en effet partout. Je l'ai dit, tu mènes une double carrière de musicienne classique et de femme politique. Quel est le milieu qui est le plus rétif à l'émergence de carrières féminines ? Est-ce que c'est celui de la musique classique ou celui de la politique ?
Peut-être la musique classique, mais on va dire que la politique... Il y a encore aussi quelques progrès à faire. Quand on est une jeune femme de gauche, il faut toujours prouver qu'on est un petit peu plus compétente que les autres.
Ouais. Et c'est cumuler les désavantages, les handicaps. Effectivement, jeune femme et de gauche, c'est compliqué. On peut voir sur ton site que tu t'intéresses à pas mal de causes. Et parmi elles, il y a bien sûr l'égalité et la cause féministe. Si tu devais dresser un état des lieux aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais ? Quelle est, d'après toi, la plus grande avancée récente en la matière ? Et sur quel point est-ce qu'on aurait en Suisse un retard inexcusable ?
Bon, je pense qu'il y a eu quelques progrès ces dernières années, mais il y a un fait parlant, c'est que l'ONU presse la Suisse d'en faire beaucoup plus. Alors, je dirais qu'il y a deux axes. D'abord, l'égalité salariale, justement. C'est quand même un droit qui est inscrit dans la Constitution depuis 1880. J'étais même pas née. Il y a eu la loi sur l'égalité en 1995 qui a un peu développé ce principe. La dernière révision, elle date de 2020, et ce qui est complètement dingue, c'est que elle a apporté certaines améliorations, mais en fait, elle ne demande pas. Seules les entreprises qui ont plus de 100 employés doivent faire ces contrôles. Et puis en plus, il n'y a pas de sanction en cas d'inégalité salariale avérée. Donc même par exemple une entreprise qui pratique l'inégalité salariale, on lui fait remarquer, imaginons on lui demande de corriger ces inégalités salariales, on recontrôle cette entreprise 3 ans après, elle continue à pratiquer l'inégalité salariale, elle n'est même pas sanctionnée. Et ça c'est complètement, hallucinant, parce que dans n'importe quel cas, je sais pas, on roule trop vite sur une route, on sait que c'est pas bien, on a une amende quoi. Non. Et donc il y a une motion au Parlement qui est passée au national, mais qui est actuellement bloquée aux États. Donc on demande rapport sur rapport pour voir si c'est bien nécessaire. Mais il y a un moment, c'est quand même un droit qui est marqué dans la Constitution en 81. Ça fait un sacré bail. Ce sera peut-être le moment de l'appliquer. Et puis l'autre point qui m'attriste beaucoup, c'est en matière de la condamnation pour viol. Donc il y a eu une pénal sexuel assez récemment. D'ailleurs, c'était pendant mon engagement citoyen pour la culture. Il y avait ce sujet au Parlement, un sujet qui me touche personnellement et qui devrait toucher toute femme. Et puis il y avait ce débat sur le fait, sur la définition du viol en fait. Est-ce que un oui est un oui ou est-ce que c'est le non qui est un non? Et voilà, le Parlement a refusé de retenir l'absence de consentement de la victime comme un élément constitutif de l'infraction du viol. C'est-à-dire qu'ils ont choisi le non est un non. Ça veut dire qu'ils ne sont pas alignés sur les normes internationales. Et puis l'ONU presse la Suisse d'avancer beaucoup plus en la matière.
Oui, la voix des femmes peine à se faire entendre dans quantité de domaines. On n'a qu'à penser aussi à ce qui est arrivé avec les aînés pour le climat, qui sont approuvés par l'Europe, mais que la Suisse rembarre assez sèchement. Sur ton site, on voit que tu critiques aussi les biais sexistes introduits par les algorithmes et par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire comment ils se manifestent et comment on devrait s'y prendre pour y remédier ?
C'est assez simple. Un algorithme, à la base, tout seul, il n'est pas sexiste. Le fait est que pour fonctionner, il doit être nourri de données. Et ces données, dans plein de domaines, elles reflètent une histoire sexiste. Donc, je ne sais pas, on peut prendre par exemple l'exemple de Spotify. Je ne crois pas que Spotify ait voulu être sexiste à la base, mais il a nourri ses algorithmes d'histoire de la musique, et l'histoire de la musique est sexiste. Donc, comme d'ailleurs l'histoire des arts en général, mais on a viré les femmes, en fait, de l'histoire de la musique, ce qui fait que quand l'algorithme il voit que dans les données qu'on lui donne, en gros, il n'y a quasi pas de femmes, puis que les femmes, elles sont quasi pas écoutées. On se dit, bon, être une femme, c'est pas vraiment une garantie de qualité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il propose des listes, des playlists, quoi, des listes d'écoute, où il faut attendre le 8e résultat pour pouvoir entendre une musique composée ou jouée par des femmes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On sait bien. Plus une musique est écoutée, plus elle est proposée. Donc personne n'arrive au 8e résultat. Une fois qu'on a écouté 1, 2, 3, 3e résultat, on clique sur autre chose. Et donc ce qui fait que les femmes sont beaucoup moins écoutées que les hommes du fait de ce biais algorithmique. Et puis ça a encore un impact sur l'embauche parce que qui sait qu'on embauche? Je veux dire, on avait reproché à Paléo d'avoir extrêmement peu de femmes dans sa programmation. C'était moins de 5%. Enfin, c'était assez ridicule. Et la réponse était oui, mais bon, nous, on doit remplir la plaine, quoi. Puis pour remplir la plaine, il faut des gens avec une grande popularité. Et donc, à partir du moment où on n'est pas proposé, pas écouté, on n'est pas considéré comme populaire, donc on n'est même plus engagé. Et ça, c'est un exemple d'un biais algorithmique. Donc, c'est pas une fatalité, en fait. À partir du moment où on les reconnaît, on peut les contourner. Et il faut s'imaginer que ça, c'est juste un petit exemple comme ça, qui est parlant, parce que voilà, beaucoup de gens écoutent quand même de la musique. Mais en réalité, ça s'applique partout. Une entreprise qui voudrait engager quelqu'un pour un poste à haute responsabilité, s'il prend un algorithme pour trier les dossiers, et puis que dans son histoire, ce poste a toujours été occupé par des hommes, évidemment, l'algorithme va sélectionner que des dossiers masculins, sauf si, évidemment, on lui dit de ne pas prendre en compte le sexe dans le processus de sélection.
De sélection.
Et ça, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir conscience que ces biais algorithmiques, ils existent, et puis que c'est très dangereux parce que finalement, les quelques progrès qu'on a obtenus ces dernières années à grande peine, ils sont remis en jeu, puisque c'est, évidemment, à l'échelle de l'histoire, on ne reprend pas les quelques dernières années, quoi. On reprend tout. Et c'est une question de proportion, en fait. Donc, pour pouvoir contourner ça, il faut, un, en avoir conscience, et puis, deux, donner les outils aux entreprises pour pouvoir les contourner. Il y a des institutions qui s'occupent d'ailleurs de ça, mais qui devraient pouvoir être engagées beaucoup plus régulièrement.
Et pour rester sur le côté musical, avant de nous quitter déjà, tu as choisi un morceau, une chanson d'Edith Piaf, « Non, je ne regrette rien ». Peux-tu nous dire pourquoi ?
Ah, parce que c'est une chanson qui qui m'accompagne depuis bien longtemps. La première fois que j'avais découvert cette chanson, c'était pendant un gros concours international, où évidemment, une fois qu'on a joué et qu'on attend les résultats, on est tendu, et avec cette question de se dire, finalement, est-ce que j'ai quelque chose à regretter? Et puis dans la vie, on a des hauts, des bas, on prend des bonnes, des mauvaises décisions, mais à la fin, je ne regrette rien.
on va se quitter sur ces belles paroles. Merci Estelle.
Merci beaucoup.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. rien. Non, je ne regrette rien.